Ce matin, nous terminons une série de deux semaines. Vous étiez ici la semaine dernière, pasteur Michael était là pour la dernière fois, en fait, avant son entrée dans à peine un mois. Et on a décidé de faire une série ensemble qui s'intitule « Travail d'équipe ». Et c'est, pour moi, cette conclusion-là, c'est un message que j'ai jamais fait. Et c'est pas le genre de message qu'on entend vraiment dans une église. Ça peut être un peu drôle des fois de partager ça, mais vu ma position actuelle, c'est un message pour la suite, en fait. Pour le soutien sur le travail d'équipe avec l'équipe pastorale, avec le pasteur principal. Comment être avec le pasteur principal et avec les gens de l'équipe pastorale? Et ce message-là, vous dites, ben oui, ben là, c'est très pointu. Mais je dirais que les principes que vont être abordés ce matin, je t'encourage à mettre ça en application dans ta famille, avec tes amis et dans ton milieu de travail. Parce que c'est quelque chose qui, selon moi, si on met ça en application, non seulement ça va rendre la vie des gens autour de toi meilleure, mais ça va rendre ta vie meilleure aussi. Et qu'on le veuille ou non, on a tous des attentes. Et le problème, vous avez des attentes envers Pasteur Michael et toutes les choses que moi, je n'ai pas faites, que vous auriez souhaité que je fasse. La vision que vous avez de l'Église, qui n'était pas la mienne. Toutes les choses meilleures et extraordinaires qui auraient pu se produire, mais que je n'ai pas faites. Enfin, quelqu'un va les accomplir. Non, mais c'est vrai, on a des attentes pour tout. Dans n'importe quoi, dans n'importe quel sport dans notre vie, on a des attentes. On a des attentes envers le gouvernement, envers notre patron, envers notre conjoint, envers nos enfants, envers nos parents, nos collègues de travail, envers nos amis. On a des attentes partout dans notre vie. Et souvent, malheureusement, bien, si nos attentes sont irréalistes ou trop élevées, bien, c'est sûr qu'on va être déçus. Hier soir, il faisait beau, j'ai décidé d'aller avec Zoé, on est allé prendre une marche dans le Vieux-Québec, il y avait du monde, c'est le printemps, t'as l'impression que c'est comme une ferme, t'ouvres les portes, puis là, les chèvres qui courent dans les champs, là, c'était ça, là, hier. Et étonnamment, il y a déjà beaucoup de touristes, et à un moment donné, tu promènes et tout le monde prend des photos de à peu près n'importe quoi, là, c'est semi-inquiétant. Et là, on avait cette discussion-là, elle et moi, sur justement le monde qui prend tellement de photos, puis et aussi les gens qui se prennent en selfie. Et là, c'est la discussion, c'est drôle, hein, quand on peut apparaître dans les photos d'un paquet de monde à travers le monde, en background. Et là, on a eu un moment de « Hey, on le fait? » Il y avait comme 4-5 filles. Là, ils font « Ah! » Ils se prennent en selfie comme ça. Mais nous autres, on passe au moment, puis là, on voit ça. Quelle opportunité! Fait que là, on s'est placé comme... Nous autres, on passait, les filles étaient là, fait qu'on a juste comme... dans l'arrière, comme ça. Et là, on savait pas les touristes, ils venaient de où. On l'a su assez rapidement. Parce que la fille qui prenait la photo, elle baissait son appareil, s'est retournée vers nous, elle a dit, « Mais non, mais là! » On vous a vu, là! Vous pouvez pas faire ça! Fait que là, nous autres, on est passé à rire, on s'est poussé. Et ils ont pu prendre leur photo tranquillement. Mais nous autres, il y avait des attentes. Mais imaginez, ils prennent la photo, toutes contentes, puis ils retournent chez eux, puis là, ils disent, hey, oui, on met ça sur Facebook. Et là, finalement, ah, ben non, il y a deux totos en arrière, ils font, on peut pas, là. Et quand on a des attentes, on est toujours déçus. Et moi, une des choses que je vous dirais, premièrement, c'est avant de mettre vos attentes sur la suite, laissez le temps à la suite d'arriver. Soyez patient. Le pauvre gars et sa femme débarquent ici, ils connaissent zéro personne ou presque. Il faut qu'ils s'adaptent à une nouvelle ville, à une nouvelle réalité, à des nouvelles personnes. Et de prendre le temps de laisser la chance au coureur, comme on dit en bon québécois. La première chose, je vous dirais, la confiance. Faire confiance. On a de la misère avec ça, hein? On a de la misère. Et si je reviens à toutes les sphères de notre vie, que ce soit au travail ou un peu importe, souvent, c'est une des choses qu'on a de la difficulté à faire vraiment confiance. Et là, je vais prendre un texte c'est un texte qui vient me chercher profondément. Tu sais, j'ai ma liste de questions quand je vais arriver au ciel à Dieu. J'en ai une pas pire, là. Il n'est pas prêt. Et une de ces questions-là vient de ce passage-là. Elle est dans ma liste. On va s'asseoir, là. On ne pourra pas rester debout. Ce n'est pas un échange de cartes de porte, là. Dans Nombre 20, verset 1 à 12, ça dit « Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous mourions, nous et notre bétail? » Pourquoi avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, prends ton bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire à l'assemblée et à leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Aïe, aïe. Moi, la question à Dieu, là, parce que c'est ça que vous vous posez, c'est quoi la question? Dieu dit, dis au rocher, puis l'eau va sortir. Je sais que la consigne n'est pas compliquée. Et puis là, on peut se dire, ben, en tout cas, si j'avais été à la place de Moïse, moi, j'aurais fait ce que Dieu me disait, puis j'aurais pas frappé le rocher. On va juste retourner dans le temps. Premièrement, Moïse, il a aucune idée de comment sa vie va changer quand il se fait approcher dans le buisson, puis Dieu veut dire, mais maintenant, tu vas délivrer mon peuple, il veut pas y aller, et c'est un gars qui bégaye, il y a quelqu'un qui vient, il dit, je vais te mettre Aaron avec toi, ils vont, il y a des miracles, vous connaissez toute l'histoire, ils sortent, et là, ce qui devait prendre une semaine de marche, tu sais, un petit road trip, petite randonnée, en pack-sac, turns out que ça fait 40 ans. Imaginez-vous un instant, mesdames. Votre mari dit, « Hey, je me suis booké un voyage de pêche avec les chums, on part une semaine à la pêche dans le bois. » Il revient 40 ans plus tard. Je sais que la première question que vous allez lui poser, c'est, « Je sais bien, t'as dû oublier le lait aussi? » Ça n'a pas de sens. 40 ans pour une semaine. Pas parce que c'est ce que Moïse voulait et Aaron. Mais parce que le peuple, pendant tout ce temps-là, tout ce qu'ils ont fait, on lit dans ce texte-là, ils ont fait comme, « C'est-tu pour nous faire mourir dans le désert? » On a été aussi bien de rester en Égypte. Imaginez-vous, ils étaient en Égypte captifs, ils priaient Dieu, ils criaient, suppliaient Dieu de les délivrer. Une fois que Dieu les a délivrés, ben ça fait pas encore. Après 40 ans, d'après moi, ça fait longtemps que j'aurais laissé tomber le projet-là. Je vais être honnête, là. Je me serais pas rendu à 40 ans dans le désert à tourner en rond, à me faire chialer après, à côté, à tous les jours. Mais Moïse l'a fait. Et Moïse continue. Et Moïse, quand tu te fais chialer après, ça dit quoi? Il va avec Aaron, il dit, on va aller dans la tente d'assignation, on va aller prier avant que j'en fasse un. Il va dans la tente d'assignation, il donne un coup. Et moi, je vais dire à Dieu, c'est comme, hey, pourquoi, sérieusement, tu l'as privé de la terre promise. Il n'a pas commis un crime de guerre. Oui, il n'a pas écouté, il ne t'a pas assez fait confiance, puis il était comme... Mais en même temps, il a enduré tout ça pendant 40 ans. 40 ans que le peuple ne lui a pas fait confiance. Si le peuple avait juste dit, on va faire confiance à Moïse, il aurait entré beaucoup plus tôt dans la terre promise, et rien de toute cette histoire-là se serait passé. Mais on a besoin de faire confiance. Faire confiance, ça ne veut pas dire de jamais re-questionner, de jamais s'asseoir puis discuter, de demander des comptes ou whatever. C'est de dire, c'est la personne qui a été appointée par Dieu, je vais lui faire confiance. Je vais placer ma confiance que Dieu va lui donner une vision, Dieu va l'inspirer et Dieu va nous conduire à travers cette personne-là. La confiance, de faire confiance. Et on a besoin, on vit dans un monde de méfiance et non de confiance. Mais si on veut que l'Église avance, si on veut que notre vie spirituelle avance, on a besoin de faire confiance. Deuxièmement, la collaboration. Tôt, dans la première Église, dans Acte 6, les versets 1 à 4, ça dit, à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Rapidement, quand l'Église a débuté, que le nombre de personnes augmentait, les besoins augmentaient, les disciples ne suffisaient pas à la tâche. Et c'est pour ça qu'ils ont élargi ça. Ils ont dit, on a besoin d'avoir des gens avec lesquels on va collaborer. Et pour que les choses avancent, ça prend de la collaboration. C'est-à-dire, je vais être avec toi. Je fais partie de l'équipe. Malheureusement, des fois, on voit trop souvent le rôle de l'équipe pastorale, et même encore du pasteur principal, comme étant, il y a cette personne-là et nous. Et un peu, je reviens à l'exemple de Moïse, c'est Moïse sur la montagne, le peuple qui est en bas, et il y a cette barrière-là entre. Mais une des choses que j'aime de Jésus, c'est quand il est arrivé, justement, il a effacé cette barrière-là, et il vivait 24-7 avec ses disciples, il était avec eux, et il y avait cette idée de collaboration-là. Et rapidement, la première Église a saisi ça, que ce n'était pas juste les disciples qui ont vu Jésus, nous, à côté. Ils ont décidé de dire, non, là, si on veut avancer, on ne peut pas juste dire, on va vous regarder faire la job, on va être des bons cheerleaders, mais nous, on s'assoit, puis on vous regarde aller. Et c'est impossible que ça avance de cette façon-là. Troisièmement, de supporter. Je crois qu'un des passages les plus tristes pour moi de la Bible est celui-ci de 2 Timothée 4, les versets 9 à 13. Il dit, tâche de me rejoindre, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescène est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Ici, l'apôtre Paul arrive dans les derniers instants de sa vie. Et c'est fou comment nous, des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment un regard vraiment complet sur les Écritures. On a notre regard, on est vraiment détaché. Et souvent, on voit l'apôtre Paul comme étant le super-héros des pasteurs, le gars que tu veux être avec, le gars que tu veux suivre. Mais quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il n'était pas tout le temps si aimé que ça, si apprécié que ça. Et la tristesse, c'est qu'après avoir fait tout ce qu'il a fait, implanté un paquet d'églises, avoir fait des voyages missionnaires, avoir encouragé un paquet de personnes, avoir visité, avoir fait ci, on voit tout ce qu'il fait, puis on fait comme, il n'y a pas assez d'une vie pour que je puisse faire la même chose. Mais le bout plus triste, c'est qu'il arrive à la fin de sa vie, il se retrouve en prison et il est seul. Il se retrouve seul. Tu fais comme, ben voyons donc. Et une des choses qu'on ne réalise pas, on ne sait pas, et souvent les gens disent, ah ben non, c'est pas comme ça. Mais regardez attentivement toutes les Écritures de l'Ancien et Nouveau Testament, et que ce soit Noé, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Jérémie, nommé n'importe quel prophète, que ce soit l'apôtre Paul, Élie, il y a cet élément-là de solitude. Cet élément-là où tu finis par te retrouver seul. Et c'est une réalité. C'est une réalité du ministère où tu finis par te retrouver seul. Et ce qu'on a besoin de faire, et une des choses que je vais faire, parce que le truc, c'est que ça se pourrait que dans quelques mois, je sois assis, là, il y a de la place en arrière, je vois, là. veux que je sois assis là, là. Vous savez quoi, ma job? Ça va être de dire, en tout cas, j'aurais mieux fait que lui. C'est certain. Non, pas du tout. Ça va être de supporter. D'être là. D'encourager. De soutenir. Parce que je sais ce que ça prend pour être là. Et je n'ai pas besoin d'arriver pour, ah, ben là, finalement, ben moi, c'est pas cette direction-là que j'aurais pris, c'est pas ce que j'aurais fait. Moi, c'était une des choses qui est claire avec Michael, c'est que la journée où je quitte, je suis pas là pour revenir en arrière, pour tout refaire, puis de faire, ben, moi, j'ai jamais fait ça comme ça. Non. C'est plus moi, c'est une nouvelle personne. Je crois sincèrement que l'Église a besoin d'un souffle nouveau, un vent de fraîcheur, un rajeunissement. Pas que je sois vieux. Mais il y en a des plus jeunes. On va le dire de même. Ça passe bien, ça? Et honnêtement, c'est ce que je crois. Et tout le processus est fait dans une façon où je crois que oui, c'est la bonne personne, c'est le bon moment, tout est là. Et moi, mon travail, c'est de supporter la suite de l'Église, pas en arrivant en disant, ben là, change-ci, fais ceci, c'est ça. Non. Supporter. Et ça, votre pasteur et les membres de l'équipe pastorale ont besoin que vous les supportiez dans le travail qu'ils font. Honorer. Et là, le passage, ça c'est un passage qu'on ne lit jamais. Les pasteurs, on ne lit jamais ça parce que ça nous met un peu dans l'embarras. Mais présentement, je n'ai plus d'embarras. Je peux le dire. Mais vous allez voir, ce passage-là, vous n'entendrez pas ça souvent un dimanche matin dans une église. À moins que ce soit un invité qui vienne. Donc là, mettons que je viens comme un invité du futur. Un invité du futur. Gros dimanche, hein? Là, vous avez hâte au pique-nique, là, à partir de maintenant. Dans 1 Timothée 5, les versets 17 à 21, ça dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. » Que les anciens, que les pasteurs, ceux qui dirigent, soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Honorez vos pasteurs. Honorez-les. Et c'est pas ça que de mettre sur un piédestal, c'est pas ça. Mais de leur rendre ce qu'ils doivent dire et de les encourager. Souvent, c'est plus de « Ah, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Et qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux? » Tout ça. Mais rarement, c'est d'honorer. Et la Bible en parle, d'honorer. Et je vous dis, puis moi, j'ai fait différentes tâches. J'ai été pendant 9 ans pasteur de jeunesse, slash, toute autre tâche connexe. J'en ai fait des trucs. Mais après ça, j'ai changé de chapeau. J'ai implanté naïvement une église, démarré une église. Et je dis très, encore aujourd'hui, naïvement. Avec l'élan de la jeunesse, de « Oh, ouais! » Sans savoir dans quoi tu t'embarques. Là, pratiquement, « Oh! » Et quelqu'un qui n'a jamais fait ça, même si ça fait 45 ans que tu es dans le ministère, c'est un autre game. Et avec ça vient un autre rôle, celui du pasteur principal. Et là, tu te rends compte que « Oh, c'est un autre game! » Même si ça fait X années que tu es pasteur, X, slash, tout ça, là, tu viens tomber dans un autre siège, et là, la game n'est pas la même. Et on ne réalise pas ça. On ne réalise pas le poids, la pression, le stress, de vivre cet élément-là, de vivre cette charge-là. Même si tu dis, hey, tu ne te décharges pas sur Dieu, oui. Oui, Dieu est là. Oui, il y a des gens qui sont là. Oui, il y a des amis. Il y a quelque chose, il y a comme un manteau que tu dois porter qui est tout autre. Et la Bible dit, honore ces personnes-là. Honore ces personnes-là. Moi, c'est ce que je vous encourage à faire dans la suite. Honorez les membres de votre équipe pastorale. Honorez votre pasteur principal. Si vous voulez l'avoir pour longtemps, honorez-les. Et je dirais aujourd'hui, c'est comme dans n'importe quel domaine de travail, il y a pas, ça pleut pas. Ça pleut pas, les pasteurs principaux, ça pleut pas les gens qui sont dans le ministère présentement. Grandir. Et ça, c'est très personnel. Mais combien important. Dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 12, ça dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. » Ça commence bien. Là, on comprend. Quand vous allez lire ça, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, ce n'était pas l'ami de tout le monde. « Mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi, je me rattache à Paul et un autre, moi, à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul dit, non seulement je ne peux pas m'adresser à vous comme à des adultes spirituels, je dois m'adresser à vous comme à des enfants. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide. Vous n'êtes pas capable de la prendre. Vous êtes encore au lait. Il va rajouter, pas seulement dans le passé, mais encore maintenant, je ne le peux pas parce que vous agissez par votre nature propre. Vous n'agissez pas par l'esprit. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui disent, ah, moi, mon préf, c'est Paul. Moi, mon préf, c'est Apollos. Moi, un autre, ainsi, un ça. Et Paul va casser tout ça, va dire, Il n'y a pas d'Apollos, il n'y a pas de Paul, c'est Dieu. Chacun est responsable de la semence qu'on va faire, de qu'est-ce qu'on va avoir semé. Un a semé, l'autre a planté. Ils n'ont pas fait exactement la même chose. Mais celui qui arrose, celui qui fait croître, c'est Dieu. Et c'est ce que je vous dirais. On a notre partie personnelle. Des fois, on remet notre vie spirituelle entre les mains du pasteur. Un peu comme des fois, on remet l'avenir de nos enfants au professeur. Il y a beaucoup de professeurs dans la salle, puis là, ils applaudissent à l'intérieur. Je sais. Non, mais c'est vrai. Puis on met la responsabilité du futur de nos enfants, puis s'ils ne réussissent pas, c'est toujours la faute du prof. Et des fois, on fait la même chose dans l'Église. Si je ne grandis pas spirituellement, c'est à cause du pasteur. Et souvent, on remet la responsabilité. Si je n'ai pas d'avancement dans ma job, c'est à cause de mon boss. Et c'est souvent, on va trouver le responsable de pourquoi je n'avance pas dans ma vie, pourquoi je ne suis pas rendu à cette étape-là. Et malheureusement, on prend malheureusement pas la responsabilité, ou très peu la responsabilité dans nos vies. Mais si l'apôtre Paul remet notre responsabilité spirituelle entre nos mains, il dit, Paul et Apollos sont là pour vous aider à grandir, pas pour vous faire grandir. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous inspirer, pour des fois vous reprendre, pour vous corriger. Mais la responsabilité de ma croissance spirituelle, de ma maturité spirituelle, ne tient qu'à une personne, et c'est moi et moi uniquement. Et ça peut faire toute une différence. Qu'on passe du lait à la nourriture solide, et ici, c'est fou parce que l'apôtre Paul, il ne remet pas ça en question. En fait, souvent, on remet ça en question, on dit, « Ah oui, bien, c'est ça, c'est l'enseignement qui est donné le dimanche, ce n'est pas assez suffisant pour moi, ou ce n'est pas... » L'apôtre Paul dit ici, c'est de toute façon, même si je vous en donnais plus, vous n'êtes pas capable. Des fois, on remet ça encore de dire, mais si l'apôtre Paul dit non, c'est toi. Toi. Et il dit, fais attention. Il dit, moi, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai mis en place. Et un autre va arriver par-dessus, et vous allez arriver, puis il va dire, faites attention chacun d'entre vous à la façon dont vous bâtissez. L'apôtre Paul ne prend même pas la responsabilité pour les Corinthiens. Il ne leur dit pas, ah, désolé les copains, je n'ai pas été suffisant, puis c'est pour ça que vous êtes immatures. Non, il dit, vous êtes immatures, point. Come on, on se réveille les chums. Non, je vous dis, honnêtement, des fois on voudrait, oh, si l'apôtre Paul était notre pasteur, vous ne voulez pas qu'il soit votre pasteur. Non, 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 pour de vrai, là. Mais imaginez-vous qu'il se présente aujourd'hui, Dieu a placé un message pour Mosaïque sur mon cœur. Vous êtes tous immatures. Qui veut entendre ça? For real. Mais c'est ça qu'il a fait aux Corinthiens. C'est malade, pour vrai, là. Il ne devait pas l'aimer trop, là. C'était pas un Hall of Fame. Quand il est arrivé à Corinthe, c'était comme, oh non, Paul, qui débarque. Mais pour que l'Église avance, c'est pas juste la vision du pasteur, c'est pas juste que la personne qui est en avant, et on le voit très bien à travers la Bible au complet, on vient de parler de Moïse. Et bien que Moïse voulait avancer, bien que Moïse, lui, il était prêt à entrer dans la terre promise, le peuple a fait comme, ouais, non. On préfère tourner 40 ans dans le désert puis chialer. C'est pas la responsabilité de Moïse, c'est la responsabilité de tous et chacun. Et on a notre responsabilité de grandir spirituellement, de croître spirituellement. Et quand on mature spirituellement, on inspire des gens à maturer spirituellement. Et quand on mature spirituellement, on est là pour accompagner et aider d'autres qui sont plus faibles dans la foi. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Et le pasteur et l'équipe pastorale sont là pour accompagner, aider, inspirer, guider. Ils ne sont pas là pour faire la job à notre place. Bon, la journée où je suis assis ici, là, la place qui reste en arrière là-bas, une chose que je sais, je n'ai pas d'attente envers Michael qui va faire grandir ma vie spirituelle et qu'elle va changer complètement. L'attente n'est pas là pour moi. Ce n'est pas ça. J'ai besoin, moi, d'aller vers Dieu. J'ai besoin, moi, d'aller chercher ma nourriture. J'ai besoin, moi, d'écouter, d'ouvrir mon cœur, d'être sensible, d'être attentif pour laisser Dieu faire son œuvre dans ma vie. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. La dernière chose, être sensible. Comme j'ai dit au tout début, on a des attentes. Et des fois, on a comme une conception de... Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église américaine nous donne une fausse conception de c'est quoi un pasteur. Souvent, on regarde sur YouTube, les médias sociaux, ce qu'on voit, c'est une superstar. Mais c'est rien, quand on regarde la Bible, c'est rien de tout ça. C'est même anti-biblique. Et des fois, on a notre conception de l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, là, c'est du béton, là. Cette personne-là là, est groundée, elle est connectée. Cette personne-là, il n'y a rien à son épreuve. Cette personne-là, tout peut arriver. Les murs peuvent s'écrouler, mais cette personne-là va rester comme un roc. Il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de difficulté qui arrive, il n'y a pas de tempête qui peuvent l'ébranler. Et des fois, j'ai l'impression qu'on oublie que ces personnes-là, à la base, sont des êtres humains. Au vrai. Même s'ils ont un rôle, même s'ils ont un appel, même si Dieu veut faire quelque chose de particulier à travers eux, ce sont des êtres humains. Et ce texte-là, souvent, on l'applique, le dernier texte que je vais lire, on l'applique souvent à l'extérieur. Des gens qu'on ne connaît pas. À du communautaire, à de l'évangélisation, est-ce qu'il faudrait aller vers l'extérieur? Ce texte-là est beaucoup plus large. Dans Matthieu 25, les versets 37 à 40, et vous lirez, là, je ne veux pas lire tout le passage, mais vous probablement connaissez déjà le passage. Dit les justes, lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ça, c'est un des textes qui me bouleverse le plus encore aujourd'hui. Et souvent, on le regarde comme ça, « Je connais-tu quelqu'un qui est en prison? Je suis allé visiter quelqu'un qui est en prison? » peut-être pas. Mais là, c'est très, 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 très large. Quand avons-nous vu malade, assoiffé, faim, nu? Quand, dans le fond, quand on t'a vu dans le trouble? Et ce texte-là, ça ne t'aise pas. Ça dit à l'un de ses plus petits de mes frères. Fait que c'est pas juste des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont loin, qu'il faut aller chercher. Oui, mais ça s'adresse à la personne qui est assise à côté de toi ce matin. La personne qui vit sous le même toit. La personne avec qui tu travailles, ton voisin de bureau, ton boss, ton ami, la personne avec laquelle tu fais du ministère, mais aussi, ça s'adresse aux membres de l'équipe pastorale et aux pasteurs, de faire comme, OK, d'être sensible que des fois, ça se peut que cette personne-là, ces personnes-là, on réalise qu'ils sont humains et qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être soutenus, d'être supportés, d'être encouragés. Qu'on ait une pensée, qu'on demande, qu'on s'inquiète, qu'on fasse confiance. Et c'est ce que je veux vous laisser ce matin pour la suite. Je suis encore là, les prochains dimanches, je ne sais pas. Ça a l'air d'être mon dernier dimanche, je ne sais pas. C'est semi-dramatique mon affaire ce matin. Mais pour vrai de vrai, je crois que ça peut faire une différence dans l'Église. Une longévité pour l'Église. Mais si on enlève là, deux minutes, on prend ces principes-là pour ma vie personnelle à moi, pour votre vie personnelle à vous, là où vous êtes, les gens que vous côtoyez, juste prenez un moment cette semaine à dire, OK, qui j'honore dans ma vie? De qui je m'inquiète? Avec qui je collabore? Qui je supporte? À qui je fais confiance? Et je vous dis honnêtement, je crois sincèrement que ça peut changer non seulement votre vie, mais la vie des gens autour de vous. Laissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, viens devant toi ce matin. Merci pour la journée que tu nous donnes. Merci pour l'Église que tu nous donnes. Merci pour les gens qui sont autour de nous, dans nos vies. Merci pour l'équipe pastorale qui est en place et Pasteur Michael, il dit, les enfants qui s'en viennent, Seigneur, on veut te remettre tout ça entre tes mains. Merci de nous rendre attentifs et sensibles, Seigneur, à la façon dont on va être présent dans la suite et pour la suite. Et dans nos vies aussi, autour de nous, Seigneur. Que l'on puisse, Seigneur, avoir un regard différent sur les gens que l'on côtoie, Seigneur, à la semaine. Par ton esprit, Seigneur, rends-nous sensibles et attentifs. Et ouvre nos yeux. Dans le nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous ensemble terminer avec un chant?